Alors maintenant, on va rajouter quelques services en frontal. Donc on a vu qu'on avait différentes façons d'héberger sous différents types de code des sites web ou des API web. Maintenant on peut avoir besoin, on a vu qu'on avait du load balancing, mais on peut vouloir rajouter du cache, on peut vouloir rajouter différentes sortes de choses. Et dans le monde open source, comme dans Azure
Train de
sous
chercher
forme
la
de
phrase de
service
transition
également.
pour ton truc là.
Ce genre de service ne manque pas et on va en passer quelques-uns en revue et voir une ou deux démos avant que je ne passe la main à Maxime qui pourra nous donner son retour d'expérience sur certains de ces services-là. Très bien. Merci à ExpertTime et à Cenza. Je vous encourage à aller les voir sur leur stand et ainsi que The Cloud et Bizpark. Alors, voyons d'abord quelques services. Alors, d'abord, premier problème, si on fait le tour de la Terre à la vitesse de la lumière, donc on suppose qu'on a zéro routeur, etc., on n'est que sur de la fibre optique, etc., on a 134 millisecondes déjà, rien que à la vitesse de la lumière. Donc, quand on rajoute tous les routeurs, les switches, etc., les équipements réseau, on a effectivement une latence qui dépend de la distance, parce que plus la distance est grande, plus on a des équipements entre-temps, des répéteurs, etc. Et donc, on a intérêt à être, évidemment, c'est une évidence, enfin, c'est ce qu'on constate régulièrement, le plus proche possible de ses clients. Surtout sur des sites ou des API très interactives. Si on prend par exemple de l'assistance à la saisie dans une textbox, l'API a intérêt à être assez réactive et à ce qu'on ait une latence qui soit faible. Donc on a intérêt à être proche de ses clients. Donc pour ça, on a entre autres Azure Traffic Manager, donc que je ne vais pas vous montrer, mais qu'on verra cet après-midi, je pense. Hein. Thomas va nous montrer une petite démo sympa avec du Traffic Manager. Donc le principe, c'est le fait de pouvoir adresser depuis différents clients, en fait, différents déploiements dans différents data centers d'Azure ou pas d'ailleurs. On peut aussi mixer entre de l'Azure et du non-Azure avec ce service Azure, pour le coup, qui s'appelle Azure Traffic Manager. Donc j'ai par exemple ici tout qui est déployé dans Azure, donc fou US, fou Europe et fou Asia.cloudapp.net. Et puis, tout ça est hébergé via un nom de site un peu plus classique pour les utilisateurs finaux qui s'appelle foo.com. Et donc, Traffic Manager va, grâce à ses policies qui vont dire est-ce que je fais du round robin, est-ce que je fais le plus proche, est-ce que je fais du failover ou des choses comme ça, et le monitoring des endpoints qui sont à droite, donner une réponse DNS qui va dépendre de l'endroit d'où la question est posée. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, le foo.com va pointer, en fait, de proche en proche vers l'adresse IP du foo, us.cloudapp.net, si par exemple on se trouve être aux États-Unis. Ou foo Asia, pardon, je connais mal ma slide. Disons que c'est foo Asia, par exemple. Et dans ce cas-là, on va pointer effectivement à cet endroit. Donc, on verra ça en démonstration tout à l'heure. Content Delivery Network, donc ça, c'est bah, évidemment le fait d'avoir les sites statiques qui sont le plus proches possible des utilisateurs finaux. Donc là, c'est un mécanisme complémentaire. Et donc, typiquement, tout ce qu'on a mis dans le blob storage, par exemple, on peut dire, ben, je le cache. Via du CDN, Content Delivery Network. Et donc, bah, il suffit de configurer ça, de changer l'URL, et dans ce cas-là, enfin le hostname en fait dans l'URL. Et dans ce cas-là, on pointe sur les mêmes éléments statiques en fait via le CDN. Donc comment est-ce qu'on fait? Ben, on utilise le CDN dans le portail et puis après ben, on va avoir effectivement ces URL qui vont changer. Donc on va avoir ce qui était dans Sally Blob Core Windows Net. En fait, on va le faire aller sur .vo.msecnd.net et voilà. Donc si j'ai image pic1.jpg, du coup, je vais en fait pointer sur l'URL avec le msecnd.net. Et du coup, l'image va arriver de beaucoup plus près que ça. Donc la première fois, en fait, évidemment, le CDN va se remplir en allant chercher, enfin c'est un mécanisme classique de CDN, hein, en allant chercher à l'origine. Ensuite, il garde le JPEG dans l'endroit proche du client avec un time to live. Et puis, les requêtes suivantes par ce client ou d'autres clients proches de ce premier client vont être servies directement. Voilà. Etc. Et ça se rafraîchit. Et si par hasard il constate que ça n'existe pas, il va renvoyer un 404 not found. Donc on a vu Traffic Manager, CDN, on va vite hein, parce qu'il y en a quelques-uns. Plus que 215 hein, dans les 5 prochaines minutes. Non, on a ARR, donc je vous l'ai évoqué tout à l'heure, mais vous pouvez aussi l'installer dans IIS.net de façon à avoir la main sur par exemple des mécanismes de load balancing, de monitoring, de reverse proxy avec du cache ou pas, etc. Donc vous pouvez utiliser ce service-là. C'est assez pratique à utiliser. Service Gateway, si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans ARR et que vous n'aimez pas les consoles de management en MMC ou que vous n'avez pas envie d'aller configurer dans les fichiers config de IIS, vous pouvez utiliser Service Gateway qui est plus pensé dans un mode de développement, qui est un développement spécifique d'ailleurs, que vous pouvez trouver sur SG comme Service Gateway.codeplex.com. Et puis, vous pouvez aller manipuler les fichiers JSON, etc. et vous retrouver... utiliser. Donc vous avez entre autres des services de caching, de gestion de ferme, de load balancing, etc. Qui sont ici. Ça fait partie aussi d'ailleurs des sites que vous pouvez avoir. La console de Service Gateway fait partie des sites que vous avez dans la galerie Azure Websites. Barracuda, donc ça c'est si vous avez besoin d'un web application firewall. Sur Service Gateway, si vous allez sur le Cloud Cover Show épisode 120, donc qui connaît le Cloud Cover Show? D'accord, c'est une ressource qui est pas mal pour se tenir au courant sur Azure. Vous allez sur Channel 9, donc c'est ch9.ms par exemple, et puis vous cherchez dans les choses, S-H-O-W-S, vous cherchez Cloud Cover Show et vous avez un épisode par semaine à peu près avec des nouveautés. Et donc là, c'est sur la Service Gateway. Vous en avez un aussi sur Barracuda, qui est venu expliquer comment est-ce qu'on pouvait installer Barracuda dans une infrastructure Azure. Et donc, évidemment, protéger votre site web avec des services en frontal, avec des problématiques de gestion de DOS, d'attaque en déni de service, denial of service. Et puis également surveillance des URL qui passent et des headers, etc., etc. Donc toutes les fonctionnalités qu'on va avoir classiquement dans un web application firewall vont se retrouver dans ce service Barracuda qui s'installe très bien dans Azure. Alors on va passer un peu plus dans le détail sur un service qui s'appelle API Management, qui est une des 69 nouveautés dont parlait Jacob ce matin. Donc en fait c'est le résultat du rachat d'Apifani, une société qu'on a rachetée donc récemment et qu'on a intégrée sous forme dans Azure. Et dans Azure, les noms en général sont Azure et puis ensuite un nom commun expliquant ce que ça fait. Donc API Management, ça gère les API. Donc, ça répond à ce genre de questions. Comment est-ce que vous voulez établir la communication avec les développeurs? Donc, comment est-ce que vous voulez réduire le TTFSC, le Time to First Successful Call, c'est-à-dire que vous avez une API, vous avez une API, avec la documentation qui vous explique qu'il faut faire un put ou un post, etc., etc. Et donc, en combien de temps le développeur confronté à cette documentation arrive à faire le premier appel qui va lui renvoyer des données? Donc, c'est ça le TTFSC, Time to First Successful Call. Comment est-ce que vous êtes sûr que votre modèle de licence est respecté? C'est-à-dire que, par exemple, les abonnés qui ont telle clé d'API vont être capables d'appeler votre API pas plus de 300 fois par semaine, par exemple, etc. Comment est-ce que, si vous avez des API existantes, par exemple, qui sont en XML, vous les rendez modernes en les mettant en JSON? Comment est-ce que vous pouvez voir comment votre API est utilisée, par qui, etc. Comment est-ce que vous protégez votre système qui lui-même a les API? Bref. En gros, API Management, ça va vous permettre de vous concentrer sur l'API elle-même, donc des choses qu'on a vues tout à l'heure, par exemple, sur vraiment le code, le fait qu'on ait des puts, des gets, etc. Et tout ce qui est portail de développement, clé d'API, etc., ça va être géré par API Management. Donc, ça se compose d'un portail de publication pour l'administrateur, d'un portail de développement pour les développeurs, et puis lors de l'appel au runtime, en fait, l'application va passer par un proxy qui va ensuite aller appeler l'API pour renvoyer le résultat. Éventuellement, d'ailleurs, le proxy peut très bien cacher les réponses. Alors, ça peut être soit par application, enfin bon, on a des varies by différentes choses. Voilà. Et un point important, c'est que cette API, elle est évidemment sur Azure, mais si vous en avez une qui est ailleurs qu'Azure, ça marche aussi. Vous pouvez utiliser toujours le service Azure API Management tout en exposant une API qui est chez vous ou ailleurs. Très bien. Alors, voyons un tout petit peu de détails là-dessus. Alors, j'ai ici. Donc j'ai instancié API Management. Donc vous allez dans New API Management et vous créez un nouvel API Management. Il y a un mode développeur ou un mode standard, suivant que vous voulez de la haute disponibilité ou pas, et suivant que vous voulez payer plus ou moins. Très bien. Donc une fois que vous avez choisi le mode que vous vouliez, alors vous pouvez changer après d'ailleurs dans Scale, vous pouvez dire finalement je préfère payer plus cher, donc j'ai un standard. Et voilà. Maintenant, voyons comment est-ce que ça se présente. Alors, si on va dans le dashboard, en fait, ce qui est intéressant dans le portail Azure, c'est surtout d'aller sur Manage, qui va nous renvoyer vers le portail de l'API Management. Voilà, donc on a un dashboard avec les appels qui ont été faits aux différentes API. Donc là, j'ai exposé trois ensembles d'API. L'API par défaut qui est Echo API, donc je vous laisse deviner ce qu'elle fait. Une API que j'avais faite, un petit bout d'API que j'avais fait en Python avec le framework MVC Bottle. Ils ont Flask aussi d'ailleurs. Et puis il y a là le sample products API, c'est celle que je vous ai montrée ce matin, celle en OData dans laquelle j'ai exposé juste un get de product par exemple. Donc là vous avez effectivement les appels qui ont été faits à cette API. Donc c'est une API pas très populaire vu qu'il n'y a que moi qui l'utilise et pour préparer la démo seulement. Donc voilà. Donc ça me permet d'avoir ces éléments-là. Je peux importer des API, je peux ajouter des API. Donc comment est-ce que j'ai ajouté l'API? En gros, j'ai donné un titre à l'API. Ensuite, j'ai dit quelle était l'URL. Donc là, en l'occurrence, c'était mysample webapi.azurewebsites.net. Et puis ensuite, quel était le préfixe? Donc par exemple, mon préfixe. Et dans ce cas-là, je vais retrouver dans le portail API Management, en fait, ici, tout ce qui va être mon préfixe va correspondre à MySample Web API, par exemple. Donc, très bien, j'ai exposé ça. Ensuite, je peux regarder dans la partie API comment est-ce que c'est fait. Alors, hop, voilà, donc là, j'ai mon product qui est ici, qui est à sample. Donc, je vais voir mon API sample, product qui est ici, hop. Voilà, donc après j'ai des niveaux pour les développeurs, le fait qu'ils puissent faire telle ou telle chose. Et puis j'ai exposé entre autres les métadonnées de OData qui par défaut ne sont que en XML. Donc je me suis amusé à les exposer en JSON. Donc c'est ça par exemple. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit voilà, je configure la policy et je fais convert XML to JSON ici. Et hop. Du coup, ça fait en fonction du accept header que j'ai ici. Très bien, alors testons ça directement. Donc là, je vais dans le développeur portal. Donc là, je me retrouve en tant qu'un développeur. Je vais pouvoir aller dans API. Voilà, je vais dans sample products API. Donc ça, c'est la vue qu'aurait un développeur. Et puis, je vais ouvrir une console qui va me permettre d'appeler. Alors, je peux l'appeler depuis Fiddler aussi, hein, mais je peux l'appeler directement ici. Ça, c'est pour des traces, si vous voulez voir effectivement comment est-ce que ça fonctionne. Donc là, je vais avoir une API de développement. Donc, je vais dire que j'utilise cette API-là. Et puis, je vais faire mon HTTP GET sur mon OData. Donc là, ça appelle derrière en fait le sample web API avec de la metadata et ça me renvoie des données là en XML. Et donc si je les veux en JSON, grâce à cette policy-là, je peux dire accept application slash JSON HTTP GET. Et donc là, la policy s'applique et va aller me renvoyer des choses en JSON. Alors, ça n'a pas forcément beaucoup de sens ici, parce que j'ai des XML namespace en JSON. Mais bon, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle OData propose pas le dollar metadata en XML pour l'instant. Mais voilà. Très bien. Donc, alors, côté open source, qu'est-ce qu'on a de populaire en termes de services en frontal? On a du Nginx, donc qui est un serveur, alors qui est bien positionné pour certaines choses, entre autres en serveur web statique, il est très fort. En reverse proxy, il marche très bien aussi, avec entre autres des problématiques de load balancing, etc. Mais c'est également un serveur de face CGI, donc on pourrait héberger du PHP sur Nginx aussi. Il y a Varnish qui est très bon en reverse proxy et pour cacher en mémoire le résultat dynamique d'une application. Donc par exemple, on trouve des fichiers de configuration standard pour aller exposer du WordPress. Et puis Apache qui est bien pour tout ce qui est existant. Et donc du coup, on peut très bien aller déployer en Apache un site WordPress par exemple. Et dans ce cas-là, on est sûr d'être compatible et tout. Bon, très bien. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la galerie, alors donc on a des, puis après on a des configurations qui mélangent un peu tout ça. Donc par exemple, j'ai trouvé sur Internet des configurations où ils expliquent que par exemple on peut configurer et du Nginx et du Varnish et de la page PHP MySQL comme ça. Donc je me suis dit tiens, mais pourquoi est-ce que je le ferais pas avec Websites plutôt que Apache là. Comme j'ai déjà du WordPress qui marche dans Azure Websites, vous pouvez faire nouveau WordPress et vous avez un WordPress, vous avez MySQL qui s'instancie automatiquement avec du ClearDB. Donc c'est ce que j'ai fait. En gros, j'ai fait science en terminé et j'avais cette partie-là qui marchait. Et après, je me suis dit, bon, très bien, je vais rajouter du Varnish dans un EV8.17 avec un internal load balancing, une des 69 nouveautés, et puis du Nginx load balancé en public pour voir ce que ça donne. Et donc, si on regarde ce que ça donne, alors j'ai mon site web qui est là, qui doit être à WordPress 3.4.azurewebsites.net. Alors si vous allez à WordPress 3.4.azurewebsites.net, vous allez être redirigé vers un custom domaine, puisqu'en fait il faut que je dise à WordPress en fait quel est son custom domaine, enfin son domaine, de façon à ce que ses hyperliens soient renvoyés vers le bon endroit. Donc là c'est WordPress.3.4.fr. Donc si je donc ça c'est la partie purement websites. Ensuite j'ai caché ce qui est sorti de website dans Varnish. Donc là j'ai deux serveurs Varnish que j'ai appelés Varnish 1 et Varnish 2 parce que je trouvais que c'était pratique. Et j'ai une configuration de Varnish qui est ici. Donc ça en fait j'ai été reprendre une configuration classique pour exposer du WordPress en Varnish. Donc là, j'ai dit que le host, c'était WordPress 3.4.azurewebsites.net sur le port 80. Et puis après, qu'est-ce que je cache, quand, les cookies, etc. En gros, j'ai repris la configuration classique telle que vous pouvez la retrouver. Voilà, on peut même voir dans les headers, en fait, si ça a été un hit ou un miss au niveau du cache. Très bien. Donc ça, j'ai exposé ça donc sur un réseau de machines virtuelles. Donc là, je suis en 10.3.1.21. J'ai aussi un 10.3.1.22 pour le Varnish 2. Et puis les deux sont load balancés en interne par un 10.3.1.20. Donc ça, je l'ai configuré en PowerShell parce que j'ai créé mes VM en PowerShell. Donc là, vous avez les boucles, par exemple, j'ai une boucle de 1 à 2, ce qui m'évite d'avoir du copier-coller. Et puis là, j'ai le load balancing, effectivement, qui est ici, en disant, voilà, le 10.3.1.20, c'est le varnish load balancer. Voilà. Et par qui va être utilisé ce varnish load balancer? Eh bien, par Nginx, qui est ici. Donc ce Nginx, il est là. Lui-même, ce qu'il fait, alors sa configuration, elle est beaucoup plus simple. Sa configuration, elle est la suivante. Elle dit, voilà, tout ce qui est sur slash nuage, au pluriel, c'est du statique et va le chercher dans le fichier, dans le dossier data1/www. Et tout le reste, tu vas le chercher sur le 10.3.1.20, sur le port 6080, qui est le varnish, en fait. Donc, du coup, la chaîne est complète. Et donc, si je fais un ls de slash data1/www, hop, je me dépêche. J'ai nuage, slash nuage. Hop, j'ai mes différents fichiers. Et donc, si j'essaye, parce que je vais quand même essayer de vous montrer que ça marche, si je vais dans wordpress.34.fr, j'ai mon site, donc je peux aller dans les exemples de billets, etc., enfin, voir les différents éléments. Et puis, si je vais dans slash nuage, dans ce cas, je vais m'arrêter directement à Nginx. Donc j'ai mis une page par défaut, hein, qui est la, je sais plus laquelle, et puis je peux aller sur une autre page, etc. Et donc là, c'est Nginx, hein, qui va même pas via le website. Donc voilà, du Nginx, Varnish et Websites, histoire de rigoler. Alors, je passe la main à Maxime, qui lui a mis ça en œuvre en vrai, et qui va nous expliquer comment.
Bonjour à tous. Merci Benjamin. je m'appelle Maxime Luce, je suis le fondateur de la société, je peux reprendre là-dessus.
Oui.
Je suis le fondateur de la startup Touchify. Touchify, je vais commencer par vous présenter rapidement ce qu'on fait. Donc on est une startup qui révolutionne un petit peu la façon de présenter et de diffuser de l'information à l'ère du tactile. Donc le constat qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de périphériques tactiles partout, de toutes les tailles. On en a tous un dans notre poche, je suis assez sûr. Et on en a de toutes les formes, de toutes les tailles. On les utilise, par exemple, on voit des commerciaux qui se baladent avec des tablettes. On voit dans les salons des écrans tactiles qui sont utilisés dans les stands. Mais le problème, c'est que on n'a pas de contenu qui soit spécialement adapté à ces écrans tactiles. Donc le constat qu'on a fait, c'est que finalement, la révolution tactile, ça a été une révolution qui a été matérielle. On a eu un gros avènement du matériel tactile, on en a eu, comme je disais, de toutes les formes, mais on n'a pas essayé d'optimiser la façon de diffuser l'information sur ces matériels-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est des commerciaux qui se déplacent avec des tablettes, mais qu'est-ce qu'ils vous présentent? Ils vous présentent un PDF ou un PowerPoint avec lequel ils vont faire juste un scroll. C'est pas vraiment ça qu'on attend d'un écran tactile. Ce qu'on peut voir aussi, c'est dans les salons, on voit des énormes écrans, parfois tactiles, mais finalement, ces écrans, ils sont tous statiques, et qu'est-ce qu'ils font? Ils font passer des slides les uns après les autres. C'est pas, là encore, c'est pas exactement ce qu'on recherche. Donc, le but de Touchify, c'est d'apporter une autre solution, c'est d'apporter un logiciel qui soit spécifique au tactile, et qui vous permettent de créer des expériences interactives et du contenu spécialement adapté à vos supports tactiles. Donc finalement, Touchify, notre but, c'est d'être la partie logicielle de la révolution tactile. Je ne vais pas vous embêter super super longtemps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à une démo, et vous allez pouvoir voir un petit peu plus à quoi ça correspond.
On passe sur ton...
Ouais, si on peut passer sur la tablette. Donc ici, j'ai une présentation, on va imaginer qu'on vend du vin, et qu'ici, on a une espèce de petit catalogue interactif. La grosse différence avec les présentations qu'on a l'habitude de voir aujourd'hui, c'est que je vais vraiment pouvoir choisir ce que je veux faire dans ma présentation. Donc par exemple, je vais aller cliquer sur la bouteille de rouge, et je vais arriver sur une page qui affiche mes bouteilles de rouge. Je ne vais pas avoir une structure linéaire, je vais avoir le contrôle. Là ici, je vais cliquer sur le petit verre de champagne pour me retrouver sur la page du champagne. On va avoir vraiment ce côté non linéaire de la présentation. On a aussi ajouté des concepts un petit peu plus tactiles. Par exemple, je vais pouvoir prendre les bouteilles avec mes doigts et m'amuser un petit peu à les déplacer sur l'écran. Nous, Touchify, on permet aux utilisateurs de créer ce type de contenu de manière très simplifiée. Comment on fait ? C'est là où la partie technique est un petit peu plus compliquée. On a créé un éditeur qui est en ligne, qui est très facile à utiliser, qui est complètement graphique et qui va vous permettre de concevoir vous-même ce type de présentation. Aujourd'hui, pour concevoir ce type de présentation, on était obligé de passer par une phase de développement. Et même si dans la salle, je suis sûr, vous avez tous des notions en développement, c'est du temps perdu, sachant qu'on peut faire ça en 5 minutes avec un logiciel intégré. Donc, c'est très, très simple à utiliser. Tout est en drag and drop.
Parfait.
Voilà. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps avec le projet. On va retourner sur les slides. Juste, faut avancer un peu. On va les sortir.
Voilà. Donc, on repasse sur mon PC.
Voilà, cool. Et donc, on a eu énormément de problématiques techniques avec Touchify. Il faut savoir que derrière, c'est une application quand même relativement costaud qui permet de générer ces fameuses applications tactiles. Et on a notamment utilisé beaucoup le cloud et Microsoft Azure. Donc, on va commencer par voir pourquoi on a utilisé ce cloud. Donc, la première chose, c'est qu'on est une start-up. Et une start-up, elle a besoin d'être agile et de maîtriser énormément son cycle de vie et de développement. Or, vous devez le savoir, gérer une infrastructure matérielle pour héberger un site Internet, et notamment un site Internet qui peut avoir des pics d'utilisation ou des pics de ressources, c'est assez compliqué. Ça nous demande d'avoir des ressources en interne, d'être capable de gérer des serveurs. C'est quand même assez compliqué. Donc, notre premier but, c'était déjà de faire abstraction de tout ça, d'avoir une structure qui soit complètement scalable. On est une start-up, on veut un jour toucher le monde entier. On veut pas avoir à dire, attendez, on s'arrête maintenant parce qu'on doit acheter 12 serveurs. On veut pouvoir le faire d'un coup. Et ce que ça nous permet, c'est que ça va nous permettre finalement de maîtriser complètement nos coûts. On va avoir cette possibilité-là. Et pourquoi on a choisi Microsoft Azure plutôt que notre cloud ? On va être pragmatique. Nous, c'est tout simplement parce qu'on nous l'a offert. Comme vous, on peut vous l'offrir aussi. Mais vous avez des ressources qui sont gratuites quand vous êtes participant au programme Microsoft BizSpark. Et donc, ça nous a permis de commencer à développer, même quand on n'avait pas de structure, on a commencé notre projet immédiatement et on a pu le déployer dans son environnement de production dès le début. Justement, en parlant du développement, un autre point qui nous a beaucoup séduit dans les architectures cloud, c'est on a une start-up qui a un énorme pôle technique. Par contre, un très petit pôle système. Et donc, du coup, on avait besoin de concentrer nos équipes sur le développement de notre produit. Et vraiment uniquement sur le développement de notre produit. Et le cloud, il nous a permis de mettre en place une vraie solution de ce qu'on appelle de l'intégration continue. C'est-à-dire qu'on, pendant tout le cycle de développement, on va générer, tester et mettre en ligne, mettre en production, mettre en pré-production des versions de notre application. Et ça va permettre à nos équipes, finalement, d'être concentrées sur notre code, de ne pas réfléchir à « attendez, on doit publier, pas publier ». On a des releases qui se font tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Et une fois que ces releases sont validées avec Azure, il est très facile de faire switcher un environnement de pré-production avec un environnement de production. Et donc, finalement, la mise en production, c'est quelques minutes par semaine pour valider tout ça. Ça a été un point assez important, ce qui nous a permis de garder notre efficacité. Et juste pour, parce qu'on est quand même dans la partie front-end, on a aussi pas mal utilisé donc tous ces services front-end. C'est un des gros avantages d'Azure de proposer tous ces services clés en main. Et donc, on a commencé par le Traffic Manager parce qu'on était tombé sur un problème. Je suis parti aux États-Unis. On a lancé une bêta là-bas et quand les gens essayaient d'accéder à notre site Internet, c'était horrible. Pourtant, le site Internet, il va très vite, mais il faut le temps d'atteindre notre serveur, ce qu'on appelle la fameuse latence. Et on avait de grosses pertes de latence. Du coup, pour améliorer l'expérience utilisateur, on a dit il faut qu'on ait un site aux États-Unis. Seulement, ça nous oblige à avoir plusieurs noms de domaines, ça peut être compliqué. Et heureusement, sur Azure, il y avait ce fameux Traffic Manager qui nous a permis de mettre finalement un espèce, on va dire, pour vulgariser, un espèce de proxy au milieu qui va choisir, OK, vous êtes aux États-Unis, je t'envoie sur mon site américain, vous êtes en France, je vous envoie sur mon site français. Donc, ça nous a permis de finalement améliorer drastiquement l'expérience utilisateur. Et ensuite, on a couplé ça avec des CDN qui reprennent, on pourrait reprendre le même principe dans le CDN, parce que finalement, vous avez votre donnée qui est hébergée quelque part, et le but de faire un Traffic Manager, c'est de la rapprocher de votre utilisateur, pour qu'il ait le moins de latence possible. Les CDN, c'est les meilleurs pour faire ça, puisque sur Azure, il y a une vingtaine de CDN, donc vous allez vraiment rapprocher la donnée de l'utilisateur. Du coup, nous, tout ce qui était données statiques, nos scripts, nos images, nos CSS, tout ça, on a tout mis sur un CDN en plus, de manière à vraiment rapprocher énormément la donnée de l'utilisateur. Et ensuite, il y a une petite info, je ne sais pas si vous l'avez vu passer pendant la build, mais il y a une petite fonction qui est dans Azure, qui est très très pratique, qui s'appelle Site Replicator, et qui vous permet de ne gérer qu'un site. Par exemple, nous, notre site principal est en Europe. Quand on ne déploie qu'en Europe, et il y a une fonctionnalité dans Azure qui tourne, qui s'appelle Site Replicator, et qui va voir que votre site a été mis à jour, et il va le redéployer aux États-Unis, en Asie, si vous en avez besoin en Asie. Il va vous le redéployer sur toute votre ferme. Enfin, là, je vais vous partager une petite astuce qu'on avait fait, qui est assez pratique. Alors, nous, l'éditeur qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle une single page application. Je ne sais pas si ça parle aux gens dans la salle. Et donc, en fait, finalement, c'est du HTML et du JavaScript. Derrière, il y a un service, comme on a vu tout à l'heure, avec des API. Et donc, du coup, ce service-là est complètement statique. Et on s'est dit, au lieu de le mettre dans un 2IS qui va gérer la mémoire, tout ça, on va le mettre directement dans le stockage d'Azure. Et seulement, on veut un nom de domaine, on veut du HTTPS, et ça, on pouvait pas le faire. Et donc, nous, on s'était servi d'ARR la première fois pour ça. On avait fait passer une requête vers le storage d'Azure, et ça nous permettait d'héberger une application comme si elle était dans un CDN entièrement. C'est comme si toute votre application HTML était dans un CDN finalement, et ça nous permettait d'aller très très vite et surtout de n'avoir, alors là c'est méchant pour Microsoft, mais zéro coût d'hébergement finalement, 7 centimes le giga. Si vous faites une application HTML qui fait plus d'un giga, c'est que c'est difficile. Et ça nous permet aussi, l'ARR, finalement, d'avoir plusieurs applications avec plusieurs versions et de tester nos déploiements, valider que notre déploiement est bon et switcher de version en version. Pour moi, je crois que c'est à peu près tout. J'espère que ça vous a intéressé.
Écoute, merci beaucoup, Maxime. Et puis, une application très intéressante également, balader des bouteilles de vin rouge comme ça, c'est toujours sympa. Même si c'est bien en vrai aussi.